Vous aussi, vous l'avez vécu cette fin de repas avec un vieux tonton qui se lance dans l'interprétation de « débit de l'eau, débit de lait » de Charles Trenet. C'était gênant parce que forcément ça foirait, parce que c'est impossible à chanter. Écoutez-la, c'est un exercice de diction comme un salto arrière. J'ai longtemps trouvé Trenet désuet avec son chapeau calé en arrière, sans savoir que cet accessoire était un pied de nez à Maurice Chevalier. Maurice mettait son chapeau sur l'œil pour faire le joli cœur, quand Charles voulait incarner la joie, l'insouciance et la folie. Et puis j'ai rencontré Valentin Schmitt, pas parce qu'il est prof à Sciences Po pour un cours sur l'art et l'intelligence artificielle, mais parce que cette semaine, Valentin Schmitt publie « La révolution Trenet ». Et c'est quoi cette révolution ? Trenet ne l'a faite qu'avec de la musique et des mots. Aujourd'hui, Pop & Co est donc Pop & Trenet, avec ses lumières et ses ombres. En une heure, on va passer du milieu du XXe siècle au XXIe. Entrer dans les coulisses des éveillés, chanson de Dominique A., c'est le programme avant midi. Le morceau figure sur son dernier album qui s'intitule « Vie étrange ». On mène tous des vies étranges en ce moment. Et comme disait Trenet, il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Il ne faut pas être trop gourmand, il ne faut pas trop chercher des choses extraordinaires. Ça déçoit toujours. Déjà, le fait qu'on n'est pas malheureux, c'est pas mal. Hein ? Il faut s'accommoder de la vie. Il y a des choses très simples dont il faut se contenter. Le fait d'être doit être agréable. C'est vrai. En fait, mon véritable bonheur, c'est de communiquer avec les gens. Voilà. Et j'ai préféré chanter, qui est dans le fond ma façon de parler.
Il y a beaucoup d'archives avec la voix de Trenet. Celle-ci, c'est l'une de mes préférées, c'était en 1987. Il a 74 ans et il a tout connu. La gloire, la guerre, les suspicions, les rumeurs. Il a eu l'image d'un chanteur pour jeunes et puis l'image d'un chanteur pour vieux. Finalement, l'image, on s'en fout un peu. Depuis longtemps et pour toujours, ce que chante Trenet, c'est une vie rêvée.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités, toutes excitées.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
J'arrive chez Valentin Schmitt. Il habite à Ménilmontant, qui est aussi le titre d'une chanson de Trenet. Comme Valentin Schmitt vient d'emménager, ses portes de placard n'ont pas encore de poignée, donc il les ouvre avec une pelle à tarte. Encore raccord avec l'univers de Trenet, me dis-je. Valentin Schmitt a 29 ans, il est l'auteur de La Révolution Trenet.
Ce livre, il a commencé à être écrit au moment du premier confinement et de façon assez personnelle, ça a été un moment de libération aussi parce que lorsqu'on est enfermé entre quatre murs et qu'on peut pas sortir, le fait d'écouter Charles Trenet, ça nous permet de sortir aussi. Il disait que avant lui, la chanson était souvent confinée au ministère de l'Intérieur, donc à des choses qui étaient dans des lieux fermés et que les nouvelles chansons, celles qu'il produisait, dépendaient du ministère de l'Extérieur. Et Trenet, c'est ce qui nous permet de sortir à l'extérieur, même quand on est confiné.
Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence.
Il se dit, je vais délivrer un message qui permet de voir le monde un peu autrement et de pouvoir avoir ce côté de consolation par la chanson. Et c'est vraiment le geste de Trenet.
En chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux national, c'est. On est heureux national, c'est.
Traîner des boules dans les années 30, précisément à un moment où on avait besoin de consolation entre crise économique et guerre qui s'annonce. Quand il arrive, qu'est-ce qu'on écoutait en France? Voici la traditionnelle séquence Blind Test de Pop & Co, dans une version 78 tours ce matin. Dans ces années-là, on écoutait donc ça.
C'est le cafard, je le sens qui me ferme comme avec un poignard, la cervelle
s'arrête. Fréhel, j'ai le cafard. Il y avait aussi ça, dans ces années-là. Mais ce que traînait M, c'est plutôt Louis Armstrong, George Gershwin, Duke Ellington ou Fats Waller.
Évidemment, il a amené le jazz dans la chanson française. Il y en avait d'autres avant qui le faisaient. Hein. Mireille, elle chantait sur des airs de jazz, par exemple. Mais ces chanteurs-là, ils n'ont pas eu le succès qu'a eu Charles Trenet. Et il a démocratisé, en fait, ce type de rythme-là dans une France des années 30 qui n'était pas encore très, très habituée au jazz. Ça concernait une élite parisienne de gens qui écoutaient Gershwin, qui écoutaient même Eric Satie ou qui pouvaient entendre les premiers morceaux du jazz américain. Mais c'était pas des grands succès. Et Trenet, il a fait en sorte que cette musique-là devienne très populaire et devienne populaire aux yeux du grand public. Toutes les chansons de Charles Trenet ne sont pas des chansons de jazz. Il a eu 60 ans de carrière, donc évidemment, son style a évolué. Mais il a gardé le rythme du jazz, en tout cas, ce rythme qui lui a permis d'inventer son langage et sa façon de parler autour de cette musique-là.
Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mais, la vaisselle cassée fait fric, fric, frac, et les pieds mouillés font flic, flic, flac, mais boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum. Avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
C'est un des premiers chanteurs en fait qui fait de l'onomatopée une partie d'un langage poétique et pas simplement un gimmick. Et ça, je pense que dans pas mal de chansons de Trenet, il va utiliser l'onomatopée comme un signifiant qui permet de faire avancer la chanson.
Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum. Je n'entends que boum, boum, ça fait toujours boum, 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 boum.
Il invente aussi des mots, hein, il y aura du tintanan quand le marteau tombe en panne, dans Le Revenant par exemple. Et le tintanan, c'est pas un mot, c'est un mot qu'il a complètement inventé. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce que en entendant ce mot-là, on a l'impression de savoir ce que c'est, alors qu'en fait, c'est pas un mot qui existe dans notre vocabulaire. Et je pense que c'est aussi un génie de la poésie. Il arrive à inventer des mots, à nous faire passer le message de ce que c'est que ce mot-là, sans avoir besoin de l'expliquer.
Rien qu'au son.
Rien qu'au son. Et la sonorité fait œuvre de sens, en fait, dans le langage poétique de Trenet.
Charles Trenet écrit « Boom » en 1938. Presque 30 ans plus tard, Serge Gainsbourg écrit « Comic Strip ».
N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi. Je suis là pour te protéger. Ferme les yeux, embrasse-moi.
Bam, pow, blow, whiz.
Gainsbourg a été extrêmement influencé par Trainé là-dessus. Et on peut penser même à des chanteurs beaucoup plus contemporains, des rappeurs par exemple, qui vont inventer un nouveau langage ou qui vont essayer d'incorporer dans la langue française des mots qui viennent de leur culture populaire, donc pour créer un autre type de langage et pour ensuite pouvoir délivrer ce sens à tout le monde. Une chanteuse comme Aya Nakamura, lorsqu'elle parle de Dja-Dja, on n'entendait pas parler de Dja-Dja avant, et en fait, c'est assez proche de ce qu'a fait Charles Trenet lorsqu'il invente le Tintanan. Elle vient saisir un mot qui appartient à sa culture, mais qui n'est pas forcément très répandu dans la culture française en règle générale, et elle vient le délivrer à tout le monde.
Donc en fait, Trenet a ouvert la voie à tout ça, a ouvert la voie à élargir incroyablement le champ d'écriture de la chanson française. Il a permis plein de trucs.
C'est exactement ça. C'est pour ça que moi, je pense que Trenet, c'est un poète. En permettant à toute cette génération, toutes ces générations de chanteurs qui vont suivre, de pouvoir utiliser le langage comme une matière avec laquelle on peut jouer, ou comme, je sais pas moi, une palette de couleurs qu'on pourra modifier en permanence.
Comme ça. Ça, ce n'est pas une onomatopée dans une chanson de Trenet, c'est la qualité de la liaison numérique entre Paris et Lumio, là où se trouve Thomas Dutronc. Au printemps dernier, Thomas Dutronc a publié Frenchie, un album de duo et de reprises. Dans la liste, il y en a deux de Trenet, Beyond the Sea, soit la mer en anglais, et celle-ci, Il y avait des arbres, qu'il interprète avec Philippe Catherine.
J'étais fou, peut-être, de comprendre cela, mais moi je ne suis qu'un être ouïda. Venez à moi, Apollinaire et Rimbaud, avec l'ami de ma joie, Charles Cros. Arc-en-ciel de rêve sur le toit de l'auto, ces instants qui s'achèvent sont beaux. Mais ce soir en tête, j'ai ce vieux cinéma qui vient et qui me projette tout ça. Il y avait du charme, des orages trop gros, parfois aussi des gendarmes héros. Sortant ma voiture d'important caniveau, une voiture qui dure, c'est beau. Poursuivant ma route, j'aperçois un logis où l'on casse la croûte aux bougies. Il y avait des fraises, des côtelettes d'agneau, une atmosphère Louis XIII, du vin chaud. Il y avait Thérèse et de la poule au pot. Une Thérèse à l'air, c'est beau. Où vas-tu, petit? Service est fini. Moi je t'invite à venir dans ma nuit. Ah, c'est déjà novembre. Apporte encore du bon vin. Tout là-bas dans notre chambre. C'est au vin. À l'amour, ami, que je vécu ce jour-là. Je ne pourrai jamais oublier ça.
Il y avait des vaches, des veaux et des taureaux. Une vache qui bâche, c'est beau. C'est... J'oserais jamais écrire un truc pareil. Et ça, je trouve ça. Non, parce que je sais pas, je trouve ça un peu enfantin, mais je. J'oserais pas, quoi. Je trouve ça. Mais c'est ça que j'admire d'ailleurs. C'est parce que lui, il ose. Ouais, c'est vraiment pas grandiloquent. Il n'est pas du. C'est l'opposé de la grandiloquence. Et c'est ça peut-être qui a fait du bien, j'imagine, à l'époque de mes grands-parents, parce que c'est. Il devait y avoir. Il y avait beaucoup de grandiloquence, beaucoup de grandes pompes. Les gens faisaient, voilà. D'un seul coup, c'était la jeunesse.
Mais alors, que ce soit la modernité dans les années 30 pour vos grands-parents, comment ça a pu devenir la modernité pour un garçon comme vous? Vous avez quel âge aujourd'hui?
J'ai 47 balais. Je pense pas que j'aurais pu vraiment écouter Charles Trenet à 15 ans, mais pareil, Trenet, c'est difficile de faire écouter ça à des copains. Enfin, les gens connaissent pas tant que ça, finalement, et c'est ça qui est extraordinaire. Je vous félicite de faire une émission là-dessus, parce que c'est ça qui est génial. Il y a tellement de choses à découvrir qui sont merveilleuses. Par exemple, Que reste-t-il de nos amours? Cette chanson, pour moi, c'est la plus belle chanson de tous les temps. Puis, à la fin, on l'oublie, mais il y a cette accélération folle où, d'un seul coup, l'espoir renaît. Enfin, il y a quelque chose de... Cette nostalgie de l'enfance, des années qui se sont envolées, de vouloir les retrouver, ça me parle aussi énormément. Je sais pas pourquoi, mais c'est... Et d'ailleurs, on voulait enregistrer Que reste-t-il de nos amours, parce qu'elle a fait le tour du monde aussi avec... La traduction américaine est magnifique. Sinatra l'interprétait, tout ça, mais... C'est tellement une chanson magique, j'aimais bien notre version, mais je l'ai gardée. Voilà. Il faut qu'on la travaille pendant 10 ans pour faire quelque chose de bien.
Il y en a un qui a mis des années à se remettre de l'écoute de Trenet au point qu'il n'a pas pu écrire, tellement il était impressionné. C'est Georges Brassens. En 1966, Brassens est chez Trenet, dans sa maison de la Varenne-Saint-Hilaire.
Vous en connaissez des chansons, hein?
Et les miennes? Les vôtres en particulier, je les connais à peu près toutes, et j'en connais même de temps en temps. Vous avez oublié. Il y en a une aussi que j'aime beaucoup et que je regrette de ne pas vous entendre chanter souvent, c'est Le petit oiseau.
Ah, vous êtes joli.
Non, ça, petit oiseau. Ça, c'est autre chose. C'est un autre oiseau, un véritable oiseau, là.
Ah oui, petit oiseau,
oiseau
dans, la
dans la campagne.
Ah oui, mon Dieu, dans quel temps c'était ça
Anut.
Anut, bon, alors, Anut. Anut. Petit oiseau dans la campagne, petit oiseau n'est pas bien. Petit oiseau sur la montagne s'en va, c'est quand il reviendra. Petit oiseau dans la nature, ivre d'amour et d'air pur. Chante gaiement pourvu que ça dure, ça va, petit oiseau reviendra. Mais le diable qui bat sa femme, après 3 litres de vin, lance sur eux de longues flammes son vin, petit oiseau pleure en vain. La 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 la. Vous avez bien compris, mesdames, pourquoi ce regard moqueur. Petit oiseau, c'est mon cœur.
Bravo,
qui pour vous toute se meurt.
C'est peut-être.
Revoici Valentin Schmitt, auteur de La Révolution traînée. Reprenons.
C'est peut-être. Le premier chanteur véritablement surréaliste, il part de ce qui l'entoure, donc du monde qui l'entoure, la nature, la ville, l'amour ou le bonheur, et il va transformer le monde qui l'entoure à travers son langage. Dans les paroles de Traîner, on peut voir la Tour Eiffel qui va partir en balade, on peut voir 1000 soleils bleus dans une noix, il y a tout un tas d'images, en fait, qu'il vient créer à partir du monde qui l'entoure.
Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit mille soleils, tous à tes yeux bleus pareils. On y voit briller la mer et dans l'espace d'un éclair un voilier noir qui chavire. On y voit des écoliers qui dévorent leur tablier, des abbés à bicyclette. Le 14 juillet en fête est à Rome. Du soir, on y voit des robots oies qui s'apparentent.
Il prend en fait le langage des surréalistes et la technique surréaliste pour le mettre dans la rue. Et c'est ce que dit Jean Cocteau de Charles Trenet, c'est de dire qu'il a mis la poésie dans la rue. Il l'a fait descendre du cabinet des écrivains. La poésie, elle était assez calfeutrée, en fait, dans un monde très particulier, qui était un entre-soi littéraire. Et il a donné cette poésie à tout le monde.
Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte?
Quand elle est ouverte, on n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir. On n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir.
Les découvertes.
Une noix.
Ferré ou même Brel, c'est des chanteurs qui se sont inspirés du geste de Traîner. Ils ne chantent pas forcément comme Traîner, ils ne chantent pas forcément les mêmes thèmes, mais ils se sont inspirés de ce geste-là, de prendre la poésie et de faire de la chanson, en fait, un art poétique. Et ça, je pense que c'est vraiment là que Traîner a quelque chose à apporter à toute la chanson française. Brel disait, sans Traîner, on serait tous des experts comptables. Et en fait, je pense que ce que veut dire Brel là-dedans, c'est simplement qu'il a ouvert la voie et la possibilité à la création poétique et littéraire dans la chanson française, là où elle n'était pas présente auparavant.
Bonjour Antoine, je vous réveille.
Et Delphine Seyrig fait son entrée pour une scène du film de Truffaut, Baiser volé. Truffaut adorait Traîner. Le titre même de son film est inspiré d'un vers de Que reste-t-il de nos amours. La chanson fait partie de la bande originale. Je vous laisse avec Madame Tabar et Antoine Douanel, Jean-Pierre Léo, Delphine Seyrig.
Je vous propose un contrat. Un vrai contrat, équitable pour tous les deux. Puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel. Voilà, je viens là près de vous. Maintenant, nous restons ensemble pendant quelques heures. Et ensuite, quoi qu'il arrive, nous ne nous revoyons plus jamais. D'accord ?
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Questa sera, signori.
France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Un grande astro de la canzone francese.
Comme le dit le présentateur de l'émission Musichiere sur la RAI en 1958, aujourd'hui, Pop & Co est...
Charles Trenet.
Monsieur Trenet, bonsoir.
Bonsoir. Monsieur.
Bienvenue au Musichiere.
Merci.
Bienvenue. Monsieur Trenet, vous avez beaucoup de fans ici en Italie, molti ammiratori in Italia che cantano le sue canzoni, quindi stasera lei deve dedicare una canzone a loro. Le sue canzoni sono molto popolari in Italia.
Oui, vous êtes gentil de me le dire, mais...
Mais oui.
Oh, ce n'est pas possible.
Mais oui, Monsieur Trenet, mais oui.
Charles Trenet est repris dans le monde entier par Sinatra, Nat King Cole ou Stevie Wonder, qui s'attaque à la mer. De si, ce sera donc le titre pour toutes les reprises de La Mer en anglais. La Révolution Trenet, en français dans le texte, c'est le titre d'un livre qui vient d'être publié cette semaine et je vous rappelle le nom de l'auteur, Valentin Schmitt.
Trenet, c'est le premier auteur, compositeur, interprète de renommée mondiale. Il n'y en a pas avant. Aux États-Unis, il n'y a pas d'auteurs, compositeurs, interprètes qui ont cette renommée-là. Et c'est vraiment le premier à pouvoir écrire ses textes, écrire ses mélodies et les interpréter pour tout le monde. À l'occasion de la mort de Charles Trenet, il y a 20 ans, il y a eu des journaux télévisés et on voit des interviews de gens en Indonésie qui chantent la mer. On voit des gens au Brésil qui adorent Charles Trenet. Encore aujourd'hui, le carillon d'Hiroshima joue « Mes jeunes années », une chanson de Charles Trenet, à la place de jouer la musique du carillon traditionnel dans l'église. En fait, c'est « Mes jeunes années » qui est joué sur ces cloches-là. Et donc, partout dans le monde, on écoute, on a écouté et on continue d'écouter Charles Trenet.
Mais comment c'est possible, ça ?
Je pense qu'il y a une conjonction de plusieurs choses. Déjà, il y a un rapport à la technologie. Trenet, c'est un des premiers chanteurs en fait qui se confronte au succès radiophonique au début des années 30, qui se confronte aussi au cinéma. Il tourne très vite en fait. Dès qu'il devient populaire en 1937-38, il va tourner dans plusieurs films et donc les films vont voyager. Et puis c'est dû aussi au succès et puis à l'habileté de son éditeur Raoul Breton qui l'emmène aux États-Unis juste après la guerre. et qui vient passer quelques chansons à des musiciens américains, et une de ces chansons qui deviendra le tube international, c'est La Mer, qui a été transformée ensuite en Beyond the Sea, qui deviendra un standard en fait de la musique américaine, alors que d'abord c'est une chanson de Charles Trenet.
La mer.
Charles Trenet interprète La Mer en japonais.
Natsu no hi nami wa odoru hikari no kage la mer kiyora kana aozora.
Finalement, Charles Trenet a fait exister la France, ses paysages et ses villes dans le monde entier.
L'image qu'il donne de la France, c'est une France de rêve. Mais il a aussi ce coup de maître de pouvoir unifier aussi une image de la France. Et lorsqu'il chante le folklore, par exemple, qui est une chanson autour de chacune des régions, il dit en fait qu'on passe de Paris à la Provence, ça renferme une seule et même image. Et il fait de la France, en fait, une unité. Et lorsqu'il chante une chanson...
Il participe au vivre ensemble, quoi.
Il participe au vivre ensemble, exactement. On le dirait comme ça aujourd'hui. Quand il chante 12 France, c'est ça qu'il fait. Et aujourd'hui, dans les écoles, on apprend encore 12 France parce que c'est cette image d'une France qui peut être unifiée, qui peut être apaisée et qui peut résoudre aussi pas mal de conflits. Et aujourd'hui, l'image de Trenet, c'est aussi cette image d'une France qui peut fonctionner, qui peut y arriver. La France, c'est une solution pour Trenet.
Une solution.
Oui, et c'est une solution dans la possibilité de vivre ensemble en bonne intelligence et de vivre ensemble dans la joie, en fait.
Et il revient à ma mémoire.
En 1986, le groupe Carte de Séjour, mené par Rachid Taha, reprend Douce France.
Des souvenirs familiers. Ma mémoire, des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Avant même que la chanson ne soit enregistrée en studio, Rachid Taha et son groupe la jouent sur scène, sur la place de la Concorde à Paris, face à l'Assemblée nationale.
Non mais ça vous va ou pas? Vous n'avez rien compris, il y en a qui grincent des dents, hein? On touche au patrimoine, hein? Mais c'est le nôtre aussi, hein? Oui ou non? Si vous êtes là, vous êtes d'accord avec nous, merde? Oui? C'est entraîné, on peut le chanter, nous? Ouais?
Ça a beaucoup plu, cette reprise, en fait, à Charles Trenet. Il a même été avec Jack Lang faire la promotion de cette chanson auprès de députés de l'Assemblée nationale à l'époque, parce qu'il y avait un texte de loi autour de l'immigration et il voulait justement défendre l'idée que cette immigration, elle faisait du bien à la France. Et après que la chanson ait été écrite, après que des années aient passé, elle peut être réappropriée par d'autres pour lui donner un sens nouveau.
Douce France a vécu deux interprétations opposées au moment même où elle est née. Trenet l'a écrite en 1943, il l'enregistre en 1947. Et dans le même temps, la chanson est vue comme un titre collabo et comme un hymne de résistance. Parce que l'attitude de Trenet fut ambiguë pendant l'occupation. Il a écrit et fait chanter à d'autres la marche des jeunes, qui figurait en face B de Maréchal nous voilà.
À la libération, Trenet est accusé par un comité d'épuration d'avoir collaboré. Les collaborationnistes, eux aussi, lui reprochaient d'être Charles Trenet. Ils lui reprochaient son insouciance. Le radioteur, qui était un collaborationniste infâme, disait de Trenet que Trenet, c'était l'anagramme de Néther, qu'il était petit-fils de rabbin, qui devrait être emmené par la Gestapo. Il reprend un monument de la poésie française, qui est Automne de Verlaine. Il l'appelle Chanson de Verlaine. Et tous les représentants de la collaboration française s'indignent énormément du fait que Trenet, qui représente l'ennemi, selon eux, reprenne un monument du patrimoine français. Mais de l'autre côté, en fait, les résistants, la version qu'il a fait de Verlaine, donc les sanglots longs des violons de l'automne, c'est aussi le signal d'appel pour le débarquement. Trenet dira toute sa vie qu'il n'a pas été résistant, qu'il n'a pas été collabo non plus. Et je pense que ce qu'on lui reproche le plus, en fait, c'est d'avoir été quelqu'un qui ne se souciait pas forcément de la guerre.
Et de ne pas avoir choisi son camp.
Et de ne pas avoir choisi son camp. D'avoir continué, en fait, à être dans son camp à lui, celui de la chanson, et pas avoir été dans un camp de la résistance ou dans un camp de la collaboration.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone.
Charles Trenet, soyons un peu plus graves.
Si vous voulez.
1969, Trenet est l'invité de Jacques Chancel dans Radioscopie.
Je ne voudrais pas que vous puissiez penser que je tombe dans le fait divers. Mais il est une expérience malheureuse qui vous a marqué, qui vous a griffé physiquement et moralement. Victime d'accusations mensongères, et je le sais, vous avez passé 28 jours en prison à Aix-en-Provence.
Oh, mais il y a longtemps, ça, je l'ai complètement oublié, tout le monde l'a oublié du reste.
Non, tout le monde n'a pas oublié. Aujourd'hui encore, la calomnie de la pédophilie et du proxénétisme entache la réputation de Trenet.
Charles Trenet est sous les verrous, derrière les barreaux de la prison d'Aix-en-Provence. Que s'est-il passé? Une affaire de balai bleu. Inutile de préciser, je pense, avec Charles Trenet, c'est bien connu, il ne peut s'agir de balai rose. Voilà pourquoi, d'ailleurs, comme ça se sait depuis des années, cette arrestation nous a tous un peu surpris. Tout le monde sur la côte parlait d'une vengeance. En deux mots, dans sa villa des esprits, ce n'était pas pour autant comme on voit de purs esprits, Charles Trenet, depuis longtemps, organisait des petites surprises parties, en petits comités d'abord, mais les visiteurs, ces derniers temps, étaient de plus en plus nombreux. Bref, l'attention de la police, nous dit-on, fut mise en éveil. Par qui, ça se saura.
Les faits sont les suivants. Trenet a pris en autostop deux hommes de 18 ans et ils se retrouvent chez lui, tous les trois. Son secrétaire particulier le dénonce à la police pour lui soutirer de l'argent.
Trenet a jamais vraiment caché son homosexualité. Et le procès qu'on fait de Trenet aujourd'hui en disant que Trenet est un pédophile ou ce genre de choses, c'est un peu ce relent d'une époque-là où il y avait une grosse homophobie, en fait, même institutionnalisée, qui a donné cette image-là de Trenet. Voilà, ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il est mort, et c'est peut-être le moment aussi de lever cette part d'ombre de l'image de Charles Trenet et d'essayer de transformer cette image injuste qu'on a accolée à Trenet. Et il y a eu une traversée du désert après ça, parce que cet événement-là, c'est 1963, lorsqu'il est en prison. Pendant quelques années, il ne va plus être invité, il ne va plus chanter, il ne va plus être sur le devant de la scène. Et c'est assez injuste, en fait, qu'on l'ait éloigné du devant de la scène, simplement par homophobie, en fait.
Je suis pour l'ordre établi.
Vous êtes pour l'ordre.
Absolument, et pour la loi, oui. Mmh.
Pourtant, vous avez eu des démêlés avec la loi, et vous avez trouvé ça juste.
J'ai trouvé ça stupide, surtout.
Mais dès la décennie suivante, Trenet revient, grâce à un homme qu'il a écouté dans son enfance. En 77, Jacques Higelin invite Trenet au Printemps de Bourges.
À cause de Charles Trenet, à cause de lui et par lui, j'écris Grain de poussière. À cause de lui, j'écris Irradié, voyageur immobile. Je suis le sage, le fou, le débile. Je suis de village l'idiot et j'entends les rumeurs de la ville. Et Charles Trenet, c'est la liberté de dire tout ce qu'on veut pourvu que les gens aient la banane comme un canon, le sourire étiré jusqu'aux oreilles. Et moi, rock'n'roller, si vous voulez, ou n'importe quoi, c'est mon maître, je le respecte. Et ce soir, je le chante pour que nous respirions au rythme de notre pays.
Qu'est-ce que vous avez envie de crier maintenant?
J'ai pas envie de crier du tout, surtout ce soir. J'aurais plutôt envie de chanter.
de rappeler le sens de la nuance dans les chansons. Les chansons, c'est actuellement, j'entends beaucoup de choses qui sont des chansons qui sont très ensoleillées et d'autres où il y a beaucoup d'ombre. Mais je voudrais qu'il y ait un peu de pénombre, qu'il n'y ait pas toujours ce grand soleil ou toujours cette nuit. Qu'il y ait la nuance. C'est beau le crépuscule et l'aube.
Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie une nuit d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison, bon lieu où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ces gens, ces braves gens de la Varenne et de nos gens. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, je suis qu'un petit français.
Tout ce que Trenet a chamboulé dans la langue, la musique, jusqu'à son art de la diction, vous le trouverez dans La Révolution Trenet, paru chez EPA. Ce n'est pas une biographie classique qui se déroule dans la chronologie, mais plutôt un voyage dans toute son œuvre. C'est signé Valentin Schmitt, dont vous avez entendu la voix dans ce Pop and Trenet. Vous pouvez aussi plonger dans la série que Didier Varro a consacrée à Trenet, puisque l'intégrale des 9 épisodes est encore disponible à l'écoute sur le site de France Inter. Et des reprises de Trenet, il y en a dans le nouvel album de Thomas Dutronc, qui réunit Clara Luciani, Iggy Pop, Beth Gibbons ou Philippe Catherine. Le titre du disque, c'est Frenchie.
France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Alors ? Alors quoi ? Alors Dominique A parcouru la liste des chansons diffusées en ce moment sur France Inter. Alors il mit son doigt sur celle que vous écouterez dans quelques secondes.
Alors ce sera Matt Berninger, One More Second. Je trouve l'album somptueux, en fait. Et notamment ce morceau, qui a été la porte d'entrée pour moi du disque. C'est un disque, apparemment, qu'il a fait vraiment en rentrant en studio, sans trop savoir ce qui allait en ressortir, et il a bien fait. Il y a quelque chose de très naturel, en fait, je trouve, dans la façon dont le disque se déroule, et c'est vraiment un disque qu'on peut mettre dans des tas d'occasions, en fait. On peut l'écouter, être immergé dedans, on peut le mettre en fond musical. Enfin, j'adore ce genre de disque, en fait, qui est multifonction.
One More Second, c'est le titre du morceau. Serpentine Prison, c'est celui de l'album, paru en octobre. Le tout, donc, de l'américain Matt Berninger.
The last time we were together, lately it feels like forever. And the way we talked last night, it felt like a different kind of fight. To dry my eyes, give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna
mess. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it. Why can't you just tell me what you're doing here?
Pop & Co, jusqu'à midi. Et comment ça va, vous ?
Ça va, ouais.
La réponse est de Dominique A.
Je ne pensais pas faire un disque, voilà.
Je ne pensais pas faire un disque et je l'ai fait quand même.
Ouais. C'est un peu virinquien, quoi. C'est à l'insu de mon plein gré, un peu.
L'album s'intitule « Vie étrange ». Dominique A l'a publié l'automne dernier. Donc finalement, le disque s'est imposé de lui-même, sans préméditation, avec l'arrivée d'une chanson, puis d'une autre et d'une autre encore. Ce matin, dans Pop & Co, on entre dans les coulisses de celle qui s'appelle « Les éveillés ».
J'avais lu un extrait d'un livre d'une autrice américaine qui s'appelle Viviane Gornick. Je crois que le livre s'appelle « Attachement féroce », si je me souviens bien, elle parle de sa mère. Et à un moment donné, elle a cette réflexion où elle dit « En fait, j'avais la sensation que je devais être sans arrêt présente aux côtés de ma mère et sans arrêt la regarder, parce que j'avais l'impression que si je la regardais pas, elle allait disparaître. » Et je me suis dit « Quelle drôle d'idée. C'est super. » Bon, j'avais mis ça dans un coin de ma tête. Hein. Le soir même, je commence à bidouiller sur ma boîte à rythme, puis à trouver une rythmique un peu heurtée que j'aimais vraiment bien, donc j'enregistre ça. Je fais une ligne de basse vraiment avec ma guitare très 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 basique, tout en croche, boum 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 boum, et je laisse reposer en disant bon bah, on verra demain matin. Je réécoute le lendemain matin, je dis ah il y a vraiment un truc à faire. Je dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter là-dessus. Et là me revient cette idée du regard qui en quelque sorte permet à la personne en face de soi d'exister. Et j'ai écrit le texte dans la foulée, vraiment en une demi-heure. La mélodie est venue tout de suite. Une chanson apparaît. Et entre le moment où vous commencez à la concevoir et le moment où vous la finissez, il s'est passé 3 heures véritablement cumulées de temps. J'ai trouvé la première phrase et c'est parti de là.
Si je ne te regarde plus, tu disparais. Si tu fermes les yeux, je m'évanouis, il faut se tenir éveillé, jour et nuit. Si tu t'endors, je te réveillerai. Si tes yeux me quittent un instant, je disparais. Si je me retourne soudain, tu n'existes plus, nous n'avons pas le droit de nous perdre de vue, nous n'avons pas le choix. Et tu le sais.
Ce disque, Vie étrange, il a été fait entièrement à la maison et tout seul, en raison de la contrainte du confinement. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Vous avez déjà conçu des albums entièrement tout seul. Quel plaisir vous avez à travailler comme ça ?
Il y a des choses qu'on ne peut pas reproduire en studio, qu'on ne peut pas... En fait, il y a une forme d'intimité avec la machine qui est tout simplement irreproductible dans un cadre de travail studio.
D'intimité avec la machine.
J'irai jusque-là. Et puis, non, il y a vraiment une forme d'immersion qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on n'attend aucun retour au moment où on fait quelque chose. On n'est pas dans le regard extérieur, on n'est pas dans une forme d'appréhension que fait toujours naître le regard extérieur, en quelque sorte. On se laisse aller, quoi, tout simplement, enfin, dans le bon sens du terme. On ne se bride pas du tout parce qu'il n'y a personne. Peut-être que quand je travaille en studio, peut-être que l'immersion s'arrête à un certain stade, à une certaine profondeur. Et quand je suis seul, ça va plus profond. Ça descend plus bas. Et ça crée des choses différentes.
J'aimerais bien qu'on écoute la boîte à rythme.
J'aime les boîtes à rythme qui filent droit. C'est immuable. C'est-à-dire qui lancent quelque chose et qui s'y tiennent. Et qui ne...
Ah, c'est le principe de la boîte à rythme.
Oui, mais en général, on peut aussi, quand on travaille justement sur ordinateur, on peut
bidouiller
et puis faire qu'il y a plein de petites parties. Et puis vous construisez, vous pouvez vraiment écrire une partie de boîte à rythme. Moi, je n'écris pas, je la lance et puis elle est partie. Et puis rendez-vous à la fin du morceau. Quoi. C'est un peu, elle tourne toute seule, un peu obstinément et bêtement, comme une boîte à rythme de base. Et j'ai toujours aimé ça, moi, dans les rythmiques synthétiques ou électro, c'est ce côté un peu obtus de cette espèce d'instrument qu'on ne cherche pas à humaniser. C'est-à-dire on ne cherche pas à lui faire des petites subtilités, non, ça part, ça s'arrête et c'est fini. Et c'est un peu pour moi l'héritage d'un groupe américain que j'ai toujours vénéré, c'est Suicide, le duo formé par Alan Vega et Martin Rev durant les années 70 à New York. Qui était précurseur de la musique électronique et synthétique, où vraiment, bah voilà, il lançait la boîte à rythme, et puis c'est pareil, rendez-vous à la fin du morceau, quoi. Et je suis resté vraiment sur ce principe un peu brut. C'est ce que j'aime, en fait. C'est ce côté, ça finasse pas, quoi. Alors, tout le reste peut finasser, mais pas la boîte à rythme.
Et pas la basse non plus. Et là, on se dit, Dominica sait tout faire.
Voilà, en l'occurrence, c'est un peu le niveau 3 mois de pratique. Hein. Puis j'aime bien aussi ce côté, voilà, c'est pas une basse, et puis ça fait quand même le boulot, quoi. J'ai pas de basse à la maison, donc j'ai pris ce que j'avais. Et puis ça permet aussi de pas chercher à avoir un gros son. De toute façon, là, on sait qu'on va rester dans des sons qui sont un peu modestes, un peu cheap. Hein,
Cette modestie, elle est extrêmement précieuse.
Elle peut être irritante pour certaines personnes, je le conçois tout à fait. Moi, je le sens comme ça, en fait. Je le sens comme ça. Après, ça ne m'empêche pas, par exemple, si je suis en studio, d'essayer de chasser cette modestie et de partir sur des choses un peu, des fois un peu pharaoniques, qui ne me vont pas forcément bien, d'ailleurs. Bon, j'essaye. Mais je sais que, fondamentalement, si je regarde ma discothèque, en tant qu'auditeur, je tends souvent vers ça, avec une forme de rudesse, de minimalisme, disons le mot. Hein, souvent, ça me touche énormément.
On écoute les guitares ?
Ouais.
En tout cas, quelques-unes d'entre elles. Il y a cette guitare-là. Hein. Pop & Co, c'est entrer et suivre les pistes des éveillés. Une chanson signée Dominique A. Cette guitare-là, elle est nommée dans les pistes que vous m'avez envoyées comme Guitar Space.
Oui, parce que
la guitare de l'espace.
Oui, guitare de l'espace. Ben oui, c'est un peu ça. C'est un peu, watou watou. Non, oui, c'est en fait, j'élimine l'attaque de la note en quelque sorte. C'est-à-dire,
comme un souffle.
Voilà, elle humanise un peu le reste en fait. Elle rend les choses un peu plus douces aussi, mais c'est quelque chose d'un peu fantomatique, un peu sous-jacent en fait, comme ça.
Il y a ce que vous appelez les guitares cocottes.
Ouais. Ça donne un peu de volume. À la base, il n'y avait pas toutes ces guitares. Et je me suis dit, mais il faut quand même quelques petites fioritures qui, j'ose le mot, un peu chatoyantes, qui donnent de l'espace justement au morceau. Ça rend le morceau pop, en fait. Il est un peu grave, le morceau, comme souvent mes morceaux. Donc là, il y a un côté plus lumineux et qui permet justement à la chanson de tenir le temps de ces 3 minutes sans que, j'espère, on s'ennuie, quoi.
J'aimerais bien qu'on écoute la piste vocale.
Ouais.
Nous n'avons pas le droit de nous perdre de vue. nous n'avons pas le choix. Et tu le sais.
Après, c'est des voix, je sais que mon père a écouté le disque et puis il m'a dit, il m'a parlé d'une chanson, il me dit, ouais, j'aime vraiment bien celle-là. Je dis, bah, c'est la seule qui n'est pas de moi. Il dit, ouais, bah, désolé, mais en tout cas, là au moins, tu chantes. Pour lui, je ne chantais pas sur les autres. Et c'est marrant parce que c'est une conception, pour les gens, chanter, c'est absolument faire preuve d'autorité, donner de la voix, montrer qu'on sait chanter.
Et même si tout concourt autour.
Mais je pense tout simplement que quand on donne un peu moins de voix, des fois,
à nous distraire,
quand on est moins dans l'autorité,
si sentir d'autres regards peut,
on est plus dans une forme d'intimité, tout simplement.
Nous éloigner.
Et c'est ce qui m'intéresse, c'est parler dans le creux de l'oreille des gens, quoi. C'est vraiment, comme moi, les artistes qui m'intéressent le plus en chanson, c'est souvent ceux-là. C'est pas... C'est généralement peu les stentors. Ou alors c'est des stentors qui ont une forme de retenue. C'est l'anti-Sinatra, en fait. C'est, en fait, Sinatra, c'est un peu, pour moi, le contre-exemple de tout ce que j'aime. Plein de copains, ouais.
Ouais, là, c'est sûr.
Il n'est pas question que l'amour vienne à manquer si tu restes éveillé.
Elle pourrait être plus volontaire, en fait, la voix sur ce morceau-là. Et j'ai même pas essayé de la chanter plus, en fait, après. Ça, c'est plutôt une voix du matin, donc elle est pas très chaude, elle est un peu blanche. Mais si j'avais chanté cette chanson peut-être pendant une heure et demie, j'aurais sans doute perdu le son de la voix et j'aurais été obligé, du coup, de refaire une prise intégralement.
Il y avait cette recherche aussi d'avoir une voix du matin, comme vous dites.
Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien ça, les voix du matin, ouais. Quand on a la voix du matin, on peut pas faire son chanteur, quoi.
Faire son chanteur, ça veut dire quoi ? Vous, même quand vous n'avez pas cette voix du matin, quand vous avez une autre voix plus affirmée, vous êtes jamais dans l'autorité.
C'est toujours le combat avec la langue. Comment chanter le français de façon élégante ? Voilà, c'est toujours mon obsession un peu. Donc, y a des fois, je baisse la garde en me disant « Bon, allez, je m'en fous ». Et puis je donne de la voix autant que je peux. En fait, moi, je préfère être sur un registre qui est celui du début, en fait, un peu de cette voix un peu blanche, pas très démonstrative. Et j'ai l'impression qu'on rentre dans l'oreille des gens à ce moment-là. Donc on est obligé, finalement, d'être dans une forme de vérité du morceau, de ce que raconte le morceau. Là, il y a une petite histoire. Enfin, c'est vraiment une sorte d'adresse à l'être aimé, en quelque sorte. C'est fais attention, regardons-nous. Et donc, il faut rester dans la vérité de ce texte-là, de ce que ça raconte. Ouais.
Elle est assez consolante aussi, cette chanson. C'est une chanson d'amour où il est question que deux personnes continuent de se regarder, qu'elles ne se perdent pas de vue dans tous les sens du terme.
Ouais, 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 ouais. C'est vrai que dans une période comme celle-là, on peut transposer à plein de chansons ce qu'on vit, en fait. Hein. Enfin, ce qu'on vit dans plein de chansons, je veux dire, plutôt. Mais c'est vrai que cette idée de ne pas se perdre de vue dans ce contexte-là, je pense que ça peut avoir un écho. Et c'est ce que m'ont dit des gens, en tout cas. Pourquoi pas, hein. Justement, une chanson traverse des fois des époques avec des interprétations qui diffèrent suivant le contexte.
Je peux le faire, je peux ne plus rien voir autour. Tu peux rester l'unique objet de mon regard. Et en retour, tu ne peux que me regarder. Nuit et jour, si tu faiblis, je risque de partir en fumée si je ne te regarde plus. Tu disparais si tu fermes les yeux. Je m'évanouis, il faut se tenir.
Le nouvel album de Dominique A s'intitule « Vie étrange ». C'est écrit au singulier, mais ça pourrait être au pluriel. Dominique A est aussi l'auteur de « Fleurs plantées par Philippe », un récit hommage à Philippe Pascal, figure de proue du groupe Marquis de Sade, décédé l'année dernière. Et ce soir, Dominique A sera l'un des 100 artistes présents au studio 104, entre 21h et 3h du matin, 100 artistes pour 6h de live, qui racontent la diversité de la scène française, un concert géant qui s'appelle « Hyper nuit. Merci Coy Nguyen, réalisateur de cette émission avec Ronan Mahé ce matin. Merci Ilinka Negulesco et Marion Philippe pour les trouvailles de doc et de son. Merci JB Audibert pour la programmation musicale. Pop & Copien, Pop & Copienne, la semaine prochaine, Pop & Co est Ennio Morricone. À samedi.